France Musique.
Et merci d'avoir choisi France Musique. Nous sommes en effet jusqu'à 9h tous ensemble. Ça y est, la boucle est bouclée. Au bout d'un an d'enregistrement sur les 5 continents, le Quatuor Eben achève son intégrale Beethoven. À cette occasion, France Musique fait la fête toute la journée à la formation de chambre. Heureuse nouvelle, Marie Chelem et Pierre Colombet, deux des quatre musiciens, seront avec nous en studio dès 8h35. Gauthier Capuçon renonce à ses cachets. Le violoncelliste avait annoncé une tournée estivale partout en France, dans les villes qu'il inviterait. Face à la polémique, le musicien jouera gratuitement. On en parle avec Sophie Anastasio dans Classique Info à 8h40. Un dispositif allégé pour limiter la casse. Le gouvernement discute aujourd'hui avec les partenaires sociaux de nouvelles mesures de chômage partiel sur le long terme. C'est un des titres développés par Olivier Denré dans son journal à 8h30. Et puis Love Music, non, ce n'est pas une playlist à écouter en faisant des câlins. Suzanne Gervais nous parle à 8h25 de Love Music, un jeune ensemble qui a choisi de défendre la création en période de crise.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Très bon réveil en musique. Pour commencer ce mardi, j'ai choisi Corélie. Corélie, un extrait de la 8e sonate de l'opus 3. Il l'a composée en 1689. Une œuvre moins connue que son opus 5, travaillée par tant de violonistes, était l'ensemble Stravaganza. Stravaganza qui sera à l'affiche du festival Valoir Baroque. C'est du 25 au 31 juillet en Savoie. Un festival maintenu, on l'a appris hier. Et c'est une bonne nouvelle d'ailleurs. De plus en plus de manifestations annoncent depuis quelques jours qu'elles auront bien lieu. C'est le cas aussi par exemple de la Clé des Portes dans le Loir-et-Cher du 25 au 29 juillet ou encore fin juillet du festival Debussy. Ça, c'est dans l'Indre. À quoi reconnaît-on un grand compositeur ou une grande compositrice de chansons? Eh bien, d'abord au fait qu'on fredonne ces mélodies, bien sûr, instantanément, qu'elles sont gravées dans l'imaginaire collectif, mais aussi au fait que même revisitées, ces musiques demeurent. C'est le cas des musiques de Monique André Cerf, née il y a 90 ans. Aujourd'hui, Monique André Cerf, c'est Barbara, et transformée ici par le piano de Guillaume de Chassis, c'est toujours Barbara. Barbara, compositrice, une petite cantate transformée, malaxée, triturée, jazzifiée par Guillaume de Chassis. C'est un extrait de son album Pour Barbara, paru l'an dernier. Barbara, née il y a 90 ans aujourd'hui. C'est une option qui est proposée par de nombreuses institutions culturelles depuis quelques mois, depuis le début de la crise sanitaire et de l'annulation des concerts. Pour ceux qui le peuvent, les spectateurs de ces concerts annulés depuis plusieurs mois donc peuvent renoncer à se faire rembourser. Mais à qui va l'argent? Eh bien, en Belgique, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège vient de mettre en place un fonds de solidarité. L'argent est reversé à tous les artistes belges avec lesquels l'orchestre travaille. Ça peut être les musiciens supplémentaires, les animateurs des activités nombreuses, pédagogiques, et puis même les étudiants, ouvreurs, ouvreuses de salles. Bref, tous ceux qui ne peuvent pas avoir accès au chômage. Belle initiative de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Et belle interprétation ici du Belge Henri Vieuxtemps, le final de son 7e concerto. L'orchestre est dirigé par Patrick Davin avec l'Australienne Harriet Langlais. décoiffante, cette fin du 7e et dernier concerto pour violon d'Henri Vieuxtemps. C'était Ariette Langlais au violon et l'Orchestre Philharmonique Royale de Liège, dirigé par Patrick Davin. France Musique, 8h14. Alors quand on se réveille et qu'on entend sa voix, on se dit chic, c'est dimanche. Et maintenant, c'est mardi. Et voilà, malgré tout, Corinne Schneider, le bac du dimanche. C'est le dimanche, donc, de 7h à 9h sur France Musique. Et c'est la voix du jour, du bac au programme, peut-être bien, mais aussi de petits arrangements entre amis, naturellement.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Vous savez peut-être que pour l'émission que j'ai le plaisir d'animer sur cette antenne tous les dimanches matins à partir de 7h, le bac du dimanche, je suis partie à la recherche depuis 3 saisons maintenant de transcriptions et d'arrangements de partitions de Jean-Sébastien Bach, quel que soit le style de musique, hein, d'ailleurs, que ce soit du jazz, de la musique, de la pop, pourvu que les artistes qui s'en emparent soient créatifs, inventifs et apportent justement tout leur talent, leur lecture et leur propre identité artistique. Alors voici une adaptation très réussie qui donne une pêche d'enfer de bon matin. Il s'agit d'un quatuor de saxophone japonais. Leur nom c'est Blue Aurora Saxophone Quartet. BASQ. Et en 2012, ils ont enregistré un album entier autour des morceaux les plus connus de Bach qu'ils ont adaptés dans des styles différents. On trouve bien sûr la toccata et fugue en ré mineur, l'aria des variations Goldberg, et puis il y a de véritables compositions à partir de différents préludes. Voici justement leur lecture du prélude en ut mineur, le deuxième prélude extrait du premier livre du clavier bien tempéré. L'écriture est originellement très véloce, tout en double croche, de quoi nourrir la virtuosité de ces 4 saxophonistes japonais. Bonne découverte et bonne journée à tous. Thank you.
Voilà, le choix explosif ce matin de Corinne Schneider. Je m'en étouffe qu'on retrouve Corinne toutes les semaines de 7h à 9h pour le bac du dimanche. Le dimanche, donc, et ici, c'était le prélude en ut mineur, deuxième prélude du premier livre du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach par le Blue Aurora Saxophone Quartet, le BASQ ou BASQ, 8h21. Il a 25 ans, il est canadien et son toucher, son jeu si clair, si cristallin, vous venez de l'entendre, ce jeu fait des merveilles. Yann Liziki, ici dans cette 11e étude de l'opus 10 de Frédéric Chopin, le pianiste qui sera ce soir en concert en Allemagne, en Rhénanie du Nord-Westphalie, à la Philharmonie d'Essen, c'est dans le cadre du festival de piano de la Ruhr, un concert en public, mais oui, puisque dans ce land, les salles de concert viennent de rouvrir leurs portes. Un concert qui sera diffusé ce soir en direct par Arte Concert. Il est 8h24, il est déjà l'heure de rejoindre Suzanne Gervais. Bonjour Suzanne.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
La création est décidément défendue par de nombreux interprètes un peu partout dans le monde pendant cette période de crise. Ce matin, vous nous racontez l'initiative d'un tout jeune ensemble.
Oui, il s'appelle Love Music, il a 3 ans et se présente en réalité plus comme un collectif de musiciens qu'un ensemble. Love Music a été créé par Adam Starkey, qui est clarinettiste et d'origine britannique. Il a fait ses classes à Strasbourg et il a décidé d'y installer son collectif. Love Music emprunte le nom d'une pièce de Betsy Jolas et ça tombe bien puisque ces musiciens défendent ardemment les musiques contemporaines et expérimentales, comme beaucoup d'ensembles à Strasbourg décidément, en passant pas mal de commandes. Alors malgré la reprise de l'activité publique dans de nombreux secteurs, les arts restent dans un état d'immobilité et d'incertitude, dans la vraie vie en tout cas, puisque sur le terrain numérique ça foisonne. Ça ne remplace évidemment en rien une vie musicale de chair, d'os et de vrais concerts, mais de beaux pis-allers sont quand même proposés presque chaque jour aux internautes mélomanes en attendant des lendemains meilleurs. Et Love Music apporte sa pierre à l'édifice des initiatives musicales en ligne avec Première in Private Places, des premières dans des lieux privés. C'est le nom d'une série de 5 nouvelles pièces audiovisuelles créées en collaboration avec 5 compositeurs et compositrices, je vous donne leur nom. On a l'américain David Byrd, le français Raphaël Languilla, le britannique Cameron Graham, l'américaine Kaylee Sheehan et la dernière, la norvégienne Tine Surell Lange. 5 compositeurs et des esthétiques, des univers sonores très variés. L'un est versé dans les musiques électroacoustiques, un autre construit ses propres instruments, un autre encore s'intéresse au lien avec les couleurs, une autre à l'improvisation. Tous travaillent en tout cas l'image et la vidéo. Si leurs noms ne vous disent pas grand chose, c'est parce qu'ils appartiennent à la toute nouvelle génération de compositeurs, le plus vieux d'entre eux à 32 ans. Ces nouvelles œuvres vidéo de 3-4 minutes vont être mises en ligne sur la chaîne YouTube de l'ensemble tout l'été ou presque, entre juillet et septembre. Rendez-vous le 17 juillet pour découvrir avec vos oreilles et avec vos yeux la première création et encourager un jeune collectif et de jeunes créateurs. Je précise en plus que chaque première sera précédée d'un Facebook Live avec le compositeur et qui sait, il y aura peut-être parmi ces miniatures expérimentales votre tube alternatif de l'été.
Ça s'appelle Premieres in Private Places, une initiative du tout jeune ensemble Love Music. À demain, Suzanne Gervais, on vous retrouve sur francemusique.fr. La chronique s'appelle Musique connectée. Et puisque vous nous parliez de Love Music, à demain Suzanne, vous nous parliez de Love Music, de musique d'amour. Je vous propose ce Cœur des Amours, cet extrait de Dardanus de Jean-Philippe Rameau.
Oh,
Jean-Philippe Rameau, le chœur des amours, extrait de Dardanus. C'était le chœur et les instrumentistes des musiciens du Louvre, dirigés par Marc Minkowski.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
Ils ont enregistré l'intégrale des quatuors de Beethoven dans cette ville du monde entier. Le quatuor Ebène est à l'honneur sur France Musique à l'occasion de la sortie de ce coffret. Marie Chilem, l'altiste de l'ensemble, et Pierre Colombet, le premier violon, sont déjà avec nous en studio, nos premiers invités en studio depuis bien longtemps. Avec nous, ils vont revenir sur cette odyssée, sur cette année Beethoven, interrompue par la crise sanitaire et le confinement, sur leur retrouvaille aussi, et notamment leur premier concert. C'était ici, à la Maison de la Radio, avant-hier, concert diffusé ce soir à 20h sur France Musique. Pour l'heure, il est 8h30. L'heure du journal d'Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Ils seront ce matin au commissariat d'Evry dans le département de l'Essonne. Julien de Normandie, Christophe Castaner et Édouard Philippe. Le chef du gouvernement et ses ministres veulent ainsi dire leur soutien aux policiers de terrain au lendemain d'une série d'annonces qui inquiètent la plupart de leurs représentants syndicaux. Les membres de l'exécutif iront ensuite rencontrer les militants d'une association qui lutte au quotidien contre le racisme et les discriminations. Pressé par l'Élysée, le locataire de la place Beauvau a en effet dévoilé hier plusieurs mesures illustrant sa volonté d'une tolérance zéro au sein de la police. On retiendra entre autres cette décision de suspendre un policier ou un gendarme soupçonné d'actes ou de propos racistes. Le ministre de l'Intérieur a également promis l'abandon de la méthode d'interpellation par étranglement. Dans les rangs de l'opposition, certains saluent à gauche une prise de conscience, pendant que d'autres à droite regrettent un lâchage de la police. Élodie Forêt.
Christophe Castaner est sorti du déni total, applaudissent les insoumis. Un premier pas dont il faut se réjouir, dit le député Alexis Corbière.
Le fait que le ministre de l'Intérieur s'exprime sur ce sujet est une victoire de tous ceux qui se mobilisent depuis des années sur ces sujets et qui avaient face à eux une manière de refuser systématiquement le débat, de considérer que quiconque posait des questions faisait de la haine anti-flic. Bref, c'était le blocage. Et là, on voit, du fait de la mobilisation, le ministre est obligé de bouger. J'ai envie de dire, ouf, on peut respirer, on peut discuter maintenant.
Un premier pas donc, même si on est encore loin du compte, soupirent les écologistes. Rien sur le contrôle au faciès, pas d'interdiction du plaquage ventral. À droite, Aurélien Pradier, secrétaire général du parti Les Républicains, n'est pas satisfait non plus. Pour lui, le ministre de l'Intérieur n'a fait que rappeler des évidences.
La réalité, c'est que Christophe Castaner vogue au gré du vent. Il a surréagi aux situations. Il n'est pas capable de faire preuve de sang-froid, de véritable stratégie. C'est pas une énième annonce juste après un épisode médiatique particulier qui va régler un problème beaucoup plus profond.
Et les critiques les plus dures venant sans surprise du RN, le parti de Marine Le Pen, accuse le pouvoir de se coucher sous la pression, je cite, d'une famille de délinquants notoires et de quelques excités.
Et la famille en question, c'est celle d'Adama Traoré, une famille qui refuse ce matin de rencontrer la ministre de la Justice. Elle précise qu'elle demande depuis 4 ans maintenant que les gendarmes mis en cause dans cette affaire soient convoqués, interrogés et mis en examen. La famille Traoré appelle par ailleurs à une grande mobilisation samedi prochain, place de la République à Paris. Au lieu des manifestations dans la capitale, la place de la République accueillera ce soir un rassemblement pour dénoncer le racisme et les violences policières. Un hommage sera rendu à George Floyd qui doit être enterré à Houston aux États-Unis. Hier, des milliers de personnes ont salué sa dépouille au moment où le policier inculpé de meurtre comparaissait devant la justice. Une caution $1 million a été fixée à cette occasion pour sa libération. Et un mardi de colère de plus pour les professionnels de santé. Sud et la CGT pointent aujourd'hui les inégalités de traitement, s'agissant notamment de la fameuse prime de 1500 euros promise par le gouvernement au plus fort de la crise sanitaire. Une prime à la casse pour les avions les plus polluants. Cette mesure pourrait bien figurer dans le plan de relance que présentera dans une petite demi-heure maintenant le ministre de l'économie pour sauver le secteur de l'aéronautique. Le gouvernement va mettre sur la table 10 milliards d'euros. L'exécutif qui veut revoir par ailleurs les règles du chômage partiel, histoire de faire de substantielles économies. La ministre du Travail va donc recevoir cet après-midi les partenaires sociaux, alors que 80% de l'activité a redémarré, selon Muriel Pénicaud. L'État souhaite alléger le dispositif utilisé ces dernières semaines par les entreprises, tout en permettant à ces dernières d'être aidées s'il le faut, et ce jusqu'en juin 2022. Un accord collectif devra pour cela être signé, avec évidemment un certain nombre de contrepartie. Président de la CFE-CGC, François Omeril estime que c'est la moindre des choses. Il souhaite que l'argent public soit avant tout utilisé pour éviter les licenciements.
Le MEDEF, il a beau jeu de nous dire « oui, mais tout ça, c'est des usines à gaz, c'est compliqué, donnez-nous l'argent, on sait quoi en faire ». Eh bien, moi, je n'ai plus aucune confiance dans la parole du MEDEF sur le sujet. Il a pris le CICE depuis plus de 5 ans, c'est 20 milliards par an. Il n'a créé aucun emploi, en fait. Il faut un certain nombre de contraintes qui qualifient et qui justifient l'aide qui sera donnée aux entreprises. La nécessité d'avoir un plan stratégique de formation et d'évolution des compétences. Il peut y avoir une contrainte liée au dialogue social. Il peut y avoir des contraintes liés aux salariés les plus âgés, aux conditions dans lesquelles ils vont pouvoir partir en retraite, finir leur carrière et transférer leurs compétences. Vous voyez que les contraintes, on peut en trouver autant que le Code du travail prévoit de secteurs spécifiques sur lesquels l'attention des entreprises est attirée.
Des propos recueillis par Yves Planteil. Gilles Legendre sera-t-il encore ce soir le chef de file des députés marcheurs à l'Assemblée nationale? Ses collègues vont ce matin lui demander des comptes. Après la publication d'une note qu'il a rédigée à propos d'un possible remaniement ministériel, Gilles Legendre estime notamment qu'il n'y a aucun candidat crédible à part lui au sein du groupe qu'il préside. Des éclaircies sur le nord-ouest de la France. Le ciel sera nuageux partout ailleurs avec des averses régulières. Les températures de 7 à 17 degrés ce matin. De 15 à 26 degrés cet après-midi, Jean-Baptiste Urbain.
Un petit peu plus frais. À demain, Olivier Denré.
À demain.
Pour un nouveau journal.
Aujourd'hui, carte blanche au Quatuor Ébène sur France Musique.
Et oui, toute une journée avec le Quatuor Ébène à l'occasion de la sortie de leur enregistrement de l'intégrale des Quatuors de Beethoven, de votre enregistrement, car je suis ravi d'avoir pour la première fois depuis 3 mois deux invités en studio en direct, la moitié du Quatuor, Marie-Philée Malalto, bonjour.
Bonjour.
Et Pierre Colombet, premier violon.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue à tous les deux. Jusqu'à 9h, vous allez nous raconter, on va revenir sur ce périple beethovenien. Mais d'abord, ce soir, à 20h sur France Musique, il y a un concert, il a été enregistré ici avant-hier à l'auditorium de Radio France, un concert Mozart de quintette avec à l'alto Antoine Tamestit. Je voudrais savoir, lorsque dimanche vous avez joué, pour nos micros, pour nos caméras aussi, qu'est-ce que vous avez ressenti?
Comme tous les musiciens qui reprennent, plein de bonheur évidemment, parce que ça faisait 2 mois quand même qu'on jouait dans notre chambre, bureau, pièce de travail, je ne sais pas. Et quand même de recevoir des vibrations de la part de d'autres instruments ou d'autres personnes que son propre instrument, c'est très touchant. Et ça faisait 10 jours qu'on travaillait avec Antoine, qui est un collègue merveilleux. On adore travailler avec lui. Et quel luxe de reprendre en fait avec ces 2 heures de quintette de Mozart qui sont peut-être parmi les plus grandes œuvres de musique de chambre pour nous. Voilà. Et donc un grand bonheur, et puis on doit aussi saluer quand même l'auditorium de Radio France, qui est une acoustique absolument parfaite pour les cordes. En tout cas, on trouve ça, on est tous d'accord.
On l'entendra à 20h ce soir. C'est vous qui avez choisi Mozart pour reprendre,
pour
la rentrée?
Je sais pas, on était tous d'accord, je crois. On a une affection particulière pour Mozart. Ouais. On se sent bien avec Mozart. On en voulait peut-être un peu changer de Beethoven, mais...
C'est vrai que c'est un peu l'idéal pour reprendre, ouais.
Ce soir à 20h sur France Musique, et on pourra voir des extraits vidéo sur le concert de demain sur francemusique.fr. Ce sera à 18h sur nos réseaux sociaux. La première fois que vous avez rejoué ensemble après 2 mois confinés, séparés, ça s'est passé comment? Quel a été votre sentiment?
Bon, oui, je pense qu'on était, on avait un invité avec nous, donc c'était... Ça nous a apporté aussi de la fraîcheur dans notre...
Mais avant même ce concert, la première fois que vous avez répété, parce que pendant des semaines, vous n'avez pas joué ensemble, j'imagine.
Pendant deux mois au moins.
Hein, oui.
Depuis le 15 mars exactement, hein, c'était à Francfort le dernier concert.
Ouais.
Et on a repris avec Antoine, pas repris à quatre.
D'accord.
On est allé répéter chez Antoine.
Antoine Tamestit,
dans son salon. Et... J'avoue qu'on avait quand même les larmes aux yeux. Hein. Mmh. On a pas mis longtemps, on se disait, bon, ça va être terrible de reprendre, il va falloir chauffer, etc. Mais en fait, les vibrations vraiment physiques nous ont pris le dessus sur peut-être les inquiétudes de, voilà, est-ce que ça va bien se passer après 2 mois d'inactivité. Mmh. Et on a profité de la musique, vraiment.
Puis on n'a pas changé, je crois. On est pareil.
Marie Chelem et Pierre Colombet du Quatuor Eben sont avec nous jusqu'à 9h. C'était moins de 2 mois avant le début du confinement, l'enregistrement du dernier volume de votre intégrale Beethoven. Après Vienne, Philadelphie, Tokyo, Sao Paulo, Melbourne et Nairobi, vous boucliez la boucle à Paris. Beethoven, le troisième mouvement du troisième Quatuor à cordes, c'est l'opus 18 numéro 3 et c'est le Quatuor Eben extrait de leur intégrale Beethoven, donc paru chez Erato. Journée consacrée à ces quatre musiciens sur France Musique jusqu'à 9h. Nous sommes avec Marie Chelem, l'altiste du Quatuor, et Pierre Colombet, le premier violon. On vous retrouve dans un instant, mais à 8h42, il est grand temps de rejoindre Sophia Anastasio. Pour Classique Info, bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Baptiste.
On commence par la disparition de Mohamed Cissé, jeune violoncelliste noir tué aux États-Unis.
Le musicien de 18 ans a été abattu par balle près de son domicile à Philadelphie dans la nuit du 31 mai au 1er juin. Selon la presse américaine, il n'y a pour l'instant pas eu d'arrestation. Une enquête est toujours en cours pour déterminer les circonstances. Mohamed Cissé faisait partie du programme orchestral et social Musicopia String Orchestra. Sa mort a beaucoup affecté la communauté musicale de sa ville. Une levée de fonds a été organisée pour aider sa famille. Le soir même, à Philadelphie, comme dans tout le pays, une manifestation antiraciste Black Lives Matter était organisée.
Les employés de la Scala de Milan se mobilisent.
Invisibles mais indispensables, couturiers, électriciens, danseurs, techniciens ont organisé un sit-in à Milan pour alerter sur leur situation. Sans emploi depuis 3 mois, depuis la fermeture de la Scala, ils réclament de l'aide, une protection ainsi que de la visibilité quant à la réouverture du théâtre.
L'Orchestre Philharmonique Royal de Liège met en place un fonds de solidarité pour venir en aide aux artistes précarisés.
L'ensemble belge propose au public de ne pas se faire rembourser les tickets de spectacle annulés. L'objectif est de reverser l'intégralité de ces sommes aux artistes, techniciens, prestataires avec lesquels l'orchestre travaille régulièrement et qui n'ont pas pu avoir accès au chômage depuis le début de la crise. L'ensemble doublera ensuite la somme sur ses fonds propres.
En France, le fonds de secours de la musique enregistrée est ouvert.
Doté d'1 million d'euros, il vise à aider les disquaires, les distributeurs et les producteurs phonographiques. Le montant maximum des aides individuelles pourront s'élever respectivement à 1500 euros, 35 000 et 10 000 euros. Les dates limites de dépôt de dossiers sont à retrouver sur le site du Centre National de la Musique.
Gauthier Capuçon renonce à ses cachets.
On en parlait hier face à la polémique. Gauthier Capuçon a décidé de renoncer à ses cachets pour sa tournée de concerts gratuits en plein air un été en France. Les sommes révélées par la lettre du musicien qui correspondaient au contrat de cession couvrant donc les cachets et les frais avaient suscité de nombreuses réactions. J'ai compris que les petites communes n'avaient pas de budget alloué à la culture, a expliqué le violoncelliste au journal Le Parisien. J'ai décidé d'offrir cette tournée et de prendre en charge l'ensemble des frais, a-t-il ajouté.
Et on termine par une image assez édifiante, Sophia.
Alors c'est un peu compliqué à expliquer quand on est à la radio, mais il s'agit d'une photo partagée le week-end dernier. On y voit le pianiste Rudolf Burbinder qui reçoit un bouquet à la fin d'un concert en Allemagne, un récital donné la semaine dernière. Mais c'est un robot qui lui tend du bout d'un bras mécanique les fleurs pour respecter les distances sociales de sécurité.
Classique Info avec Sophia Anastasio. Sophia, vous connaissez bien nos deux invités puisque vous êtes partie avec eux au Kenya il y a quelques mois. Votre documentaire réalisé avec le Quatuor Eben en décembre, il sera diffusé ce soir sur France Musique à 22h après le concert Mozart dont on parlait ici. Voici un tout petit extrait ici, c'est Gabriel Le Magadur, le second violon, qui travaille avec de jeunes musiciens amateurs d'un township.
1, 2, 3, 4.
It was really nice working with him, he's really cool.
C'était vraiment sympa de travailler avec lui. Il est très cool et j'ai vraiment beaucoup appris à m'exprimer plus et accompagner avec mon corps les mouvements des notes. Ça m'a donné envie de travailler encore plus. Comme ça, je pourrais jouer comme eux peut-être un jour.
Les musiciens se sont également joints aux jeunes de Ghetto Classics au milieu de l'orchestre pour les accompagner pendant la répétition. David Otiema en est le premier violon.
Ça m'a motivé. Et je ne sais pas comment exprimer cela, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai joué. J'ai joué parce que je les ai suivis, j'ai écouté la façon dont ils jouaient et j'ai essayé de copier. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose, donc je suis heureux.
Voilà, la suite, c'est ce soir à 22h sur France Musique, reportage long format de Sophia Anastasio qui vous a suivi, Marie Chilem et Pierre Colombet au Kenya. D'abord, une réaction à ce qu'on vient d'entendre?
Ça a été une émotion incroyable d'aller là-bas. Cet endroit où... Parce que, bon, on a des enfants, on les emmène à l'école de musique, au conservatoire, et ici en Europe, c'est un disons entre guillemets normal de faire de la musique. Là-bas, c'est vital, c'est absolument différent. On a vu des enfants de 10 ans qui traversent une décharge pendant 3 quarts d'heure le matin pour aller jouer du violon et qui refont le chemin inverse tout seul au milieu des fumées toxiques, de l'insécurité totale, hein. C'est le bidonville où on est allé, Cocorocho, c'est beaucoup de morts chaque jour, hein, par balle, des cartels de drogue, etc. Et ces enfants décident de faire de la musique par eux-mêmes. Les parents, parfois, sont un petit peu dubitatifs, la famille, et ils se rendent compte à quel point, au bout d'un moment, la vie de leurs enfants devient moins en danger parce que protégée de la violence par cet univers artistique, en fait. Et donc c'est vital. C'était absolument émouvant. On a passé 2 jours là-bas et on espère qu'on y retournera, en fait.
Marie Chilem.
Oui. Non, mais j'avais cette image en tête que ce bidonville qui est à côté de cette montagne d'ordures, vraiment, c'est Pour eux, ils respirent un air complètement, comme Pierre le disait, toxique. Et pour eux, la musique, c'est une bouffée d'air pur. C'est voilà, c'est ça les libère de la peur, comme disait Raphaël aussi. Ils ont un idéal. Ils ont ce que ce jeune disait dans le reportage. Là, ils ont envie d'imiter. Ils ont soif d'apprendre. Ils ont voilà. Donc c'était vraiment assez bouleversant, oui.
Et c'est anaérobique. Vous avez donc enregistré l'un des volumes de cette intégrale. Et vous avez d'ailleurs choisi d'enregistrer le 16e et dernier Quatuor de Beethoven, opus 135. Voilà, le tout début, très lent, chantant et tranquille, début du troisième mouvement de l'opus 135, 16e et dernier quatuor de Beethoven, c'était le 8 décembre 2019 au Kenya, à Nairobi, l'une de vos étapes pour cette intégrale Beethoven, Pierre Colombet, Marie Chilem. Comment vous avez choisi d'enregistrer tel ou tel quatuor? Comment ça s'est fait? C'est un hasard du calendrier? Par exemple, le dernier quatuor de Beethoven enregistré en Afrique?
Non, c'est pas. On a essayé évidemment de faire des combinaisons intéressantes, mais en fait, c'est pas évident de rentrer 16 quatuors de Beethoven sur 7 disques, et il n'y a pas beaucoup de choix en fait. Alors évidemment, on va pas mettre tous les opus 18 sur 2 disques, et puis voilà.
Là, vous parlez du minutage comme un
puzzle. Exactement, exactement. Il y a même un disque qui fait plus de 80 minutes, là, on s'est fait disputer un peu. non, mais en tout cas. C'est pas évident. Je me souviens avec Gabriel, on était dans un café il y a 2 ans et on essayait toutes les combinaisons possibles. Et je pense qu'on est arrivé à quelque chose d'assez élégant. Mais voilà, ça s'est trouvé comme ça en fait. Jouer le dernier à Nairobi, c'était en tout cas une très grande expérience parce que le public a été merveilleux là-bas.
Alors, il s'en est passé des choses ces derniers mois. En début d'année, vos deux autres comparses, Raphaël Merlin et Gabriel Le Magadur, étaient venus ici même. Vous avez été dans toutes ces villes, tous ces pays, touchés à des degrés divers par la pandémie, bien sûr. Gabriel Le Magadur, d'ailleurs, votre collègue, nous l'avait dit ici, dans une émission confinée. Ça l'a ébranlé, ce qui s'est passé face à ce grand projet que vous avez mené, même si vos déplacements étaient tous compensés en carbone via vos voyages en avion. Marie Chilem, Pierre Colombet, est-ce que ça vous a interrogé sur la pratique de votre métier, comme tant d'autres musiciens?
Oui, bien sûr. Ça fait plusieurs années qu'on se dit qu'on aimerait se sédentariser un peu plus. Et parce que il est vrai que parfois on fait quand même 2-3 heures d'avion pour jouer un concert. Et on se sent de plus en plus coupable de faire ce genre de choses. On essaye de grouper les concerts au maximum. Et puis on prend le train au maximum. Voilà, on accepte jusqu'à 9 heures de train le jour du concert. Et bien sûr, on a. Je pense qu'il y a de plus en plus de musiciens qui se sentent concernés par ça. Il faut essayer de ralentir. Mais le streaming ne vaut pas un vrai concert en live. Moi, je m'en suis rendu compte, en tout cas, pendant ce confinement. Donc, voilà, on est tout le temps partagé entre aller communiquer physiquement notre amour du quatuor le plus loin possible et le plus possible dans le monde, et ce problème de polluer, hein, tout simplement.
Marie Chelem, jouer Beethoven pendant des mois et des mois, le côtoyer intimement, comme ça, presque quotidiennement, et l'interpréter dans le monde entier, est-ce que ça a changé votre jeu de Beethoven, votre jeu même à tous les quatre au-delà de Beethoven? Est-ce que jouer aussi cette musique vous a changé, vous? Vous l'avez côtoyé pendant 3 ans, vous avez joué que Beethoven pendant 3 ans.
Je crois que oui. Je crois que ça nous a fait progresser sur beaucoup de plans. Ça nous a fait grandir. Ça nous fait nous rapprocher. Ça nous harmonise, en fait. On est un peu liés par cet idéal de bien jouer Beethoven, évidemment, de progresser sur l'instrument, d'être encore un meilleur musicien, encore un meilleur collègue. Voilà, ça nous ouvre à, voilà.
Il aime bien secouer les musiciens, quand même, Beethoven, faut le dire. Il a une personnalité tellement contrastée que on passe dans de divers états en répétition, et on est en permanence bousculé, et on doit faire face à ces montagnes de cyclothymie en permanence.
Vous aviez prévu de prendre un an sabbatique en soupape après ce marathon Beethoven. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours d'actualité?
Je crois que oui. Hein. Je crois que...
Mais en fait, on n'a pas... Ça tombe très mal, hein. Ça tombe très très mal. L'origine du projet, quand même, de l'intégrale Beethoven, c'était le Carnegie Hall qui nous avait invités. Mmh. On a maturé ça pendant 3 ans. Et au moment du virus, évidemment, Carnegie Hall annulé, plein d'intégrales annulées par l'Europe. Donc forcément, le sabbatique paraît un petit peu bizarre à partir de Noël, mais le confinement, c'est pas les vacances non plus. On va jouer beaucoup en automne, on l'espère, on croise les doigts, et puis on pourra faire autre chose après.
Ce qui tombe très bien, c'est que vous êtes avec nous toute la journée sur France Musique. Concert ce soir à 20h, concert enregistré ici avant-hier à l'auditorium de Radio France avec Antoine Tamestit. Autre concert prévu sans public, la Fondation Saint-Gerre-Polignac fin juin à Évian, le 8 juillet, le 14 juillet à Fontainebleau. Là, il y aura du public.
On ne sait pas encore ce qui va se passer.
On se quitte là où tout a commencé, à Vienne. Les dernières mesures du final, 8e quatuor de Beethoven, opus 59, numéro 2. Merci beaucoup, Marie Chelem, Pierre Colombet.
Merci.
Pierre, on vous retrouve avec Raphaël Merlin, le violoncelliste, tout à l'heure à 18h chez Alex Dutille dans Open Jazz. Et puis on vous retrouve tout au long de la journée jusqu'à ce soir, 22h30 sur France Musique. C'est la fin de Musique Matin, c'est Alex Billard et Antoine Giraud qui étaient à la technique. Yacine Bouzard à la réalisation, Taïsia Froidure, Marion Guillemet, Margot Buller ont préparé cette émission. Demain, notre invité, c'est le directeur de la rédaction de La Lettre de Musicien, qui est aussi chroniqueur sur France Musique, Antoine Pecker. Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier, bonjour. Quatuor Ébène aussi
bonjour,
au programme.
Bonjour, oui, le Quatuor Ébène, évidemment, on va revenir sur cette très belle intégrale. Et puis, il y aura Beethoven aussi avec Martha Argerich. Donc, vous voyez qu'on sera très beethovenien ce matin, presque comme tous les jours.
Du beau monde.
Oui,
à
absolument.
Demain.
À demain, Jean-Baptiste.
À réécouter sur francemusique.fr.